On poursuit notre série dans 2 Thessaloniciens, la deuxième lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Et ça se trouve à la page 779. Et avant de lire le passage, je vais prier. Notre bon Père Céleste, en effet, comme nous avons chanté, parle-nous. Nous avons besoin d'entendre ta voix ce matin, ta voix qui nous fait tant de bien. Donne-nous ton pain ce matin, ta parole. Et donne-nous de mieux comprendre, de saisir ce que ton esprit veut nous dire. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Donc, 2 Thessaloniciens, et nous sommes au chapitre 2. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moyen sera venu pour lui, le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc jusqu'ici, notre lecture pour ce matin. Alors, est-ce que quelqu'un vous a menti une fois de manière grave? Peut-être quelqu'un vous a induit en erreur, vous a fait croire quelque chose qui s'est révélé faux ou mensonger par la suite. Un collègue, un conjoint, un soi-disant ami. Et on a peut-être été très déboussolé, très désorienté par des mensonges. Qui est-ce qu'on peut croire après? Qu'est-ce qu'on peut croire? Et si on pense à des gens de par le monde, beaucoup de gens grandissent sous des régimes qui se maintiennent en place par des mensonges. Il suffit de penser au régime de la Corée du Nord. Mais en fait, tous les régimes, de par le monde, propagent des croyances plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Les mensonges sont puissants et destructeurs. Et dans ce passage, ce matin, l'apôtre Paul s'adresse à des gens qui se sentent déboussolés par des mensonges. On verra pourquoi dans un instant. Et Paul, l'apôtre Paul, veut les aider à y voir clair et à s'attacher à la vérité. Dans ce passage, l'apôtre Paul évoque, comme il a fait dans le passage précédent, dans celui de la semaine dernière, il évoque le retour de Christ en gloire. Et il le fait d'une manière qui nous aide à voir que toute l'histoire humaine a eu lieu, a lieu et aura lieu dans ce contexte, cette lutte cosmique spirituelle entre le mensonge et la vérité. Entre le père des mensonges, diable, et Dieu qui est lumière, qui est vérité. Ce matin, on va parcourir ce passage en 3 temps, écouter ce que l'Esprit nous dit. Il me semble qu'il nous dit 3 choses. D'abord, premièrement, ne soyez pas déstabilisés par le mensonge. Ne soyez pas déstabilisés par le mensonge. Et ensuite, deuxièmement, ne soyez pas séduits par le mensonge. Ne soyez pas séduits par le mensonge. Et enfin, deuxièmement, fixons nos yeux sur Christ, la vérité. Fixons nos yeux sur Christ. Donc, on va commencer avec « Ne soyez pas déstabilisés par le mensonge ». Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc on a commencé cette nouvelle série dans cette deuxième lettre de Paul, chrétien de Thessalonique. Thessalonique, cette ville, se trouve au nord de la Grèce. C'est dans le 17e chapitre des Actes des Apôtres qu'on peut lire le récit de Paul lorsqu'il était à Thessalonique pour la première fois. Ce n'était pas simple pour lui. Il a dû s'enfuir Il a laissé derrière lui une jeune église en but à la persécution, et une jeune église qui tenait ferme dans le Seigneur. Ensuite, il a envoyé Timothée pour les affermir. Ensuite, après Timothée, une première lettre. Dans la première lettre, il répondait à certaines confusions au sujet du retour du Seigneur. Et dans cette deuxième lettre, qu'il a envoyée peut-être juste quelques semaines plus tard, il semble compléter ce thème. Donc, le retour de Jésus. Peut-être il faisait face, il avait entendu parler d'encore plus de problèmes ou de confusions dans ce domaine. Et Paul sait que si cette jeune église a perduré, résisté, tenir ferme, dans les difficultés de la vie, face à la persécution, il faut que cette église ait une vision claire de l'avenir. Et que le brouillard concernant ce thème soit enlevé. Et on voit dans les premiers versets de notre passage de ce matin, que s'il y a du brouillard, c'est parce que cette jeune église fait face aux mensonges, fait face à de faux enseignements. Et on voit très clairement que ça concerne l'avenir et aussi leur place dans cet avenir. Donc verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ce n'est pas juste une doctrine théologique, le retour de Jésus, mais c'est quelque chose de très personnel, notre rassemblement auprès de lui. Si quelqu'un vous a fait de grandes promesses, mais ces promesses se révèlent creuses, ou si cette personne est incapable de tenir ses promesses, bien sûr, ça nous déstabilise. La promesse de fidélité dans le mariage, une promesse en mariage, une promesse d'un contrat de travail, promesse de vente. Et ces choses-là n'ont rien à voir avec la plus grande des promesses, notre rassemblement auprès de lui, auprès de Jésus. Voici notre bienheureuse espérance. Jésus revient corporellement pour nous chercher, pour que nous ne souffrions plus et pour que nous soyons avec lui pour toujours. Et manifestement, les Thessaloniciens sont troublés, alarmés, profondément dérangés parce que, verset 2, Paul dit, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, c'est-à-dire déjà venu. » Parce que manifestement, certains prétendaient que Jésus serait déjà revenu d'une manière ou d'une autre, et qu'il n'y avait donc plus rien à attendre. Alors on ne sait pas pourquoi ces gens disaient ça, mais c'est manifestement c'est ce qu'elles disaient. Il se peut que ces gens spiritualisaient ce que Paul avait dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, niant ainsi le retour corporel, physique de Jésus à la fin de l'histoire. Et ça, c'est d'ailleurs ce que les témoins de Jéhovah disent, même aujourd'hui. Ils avaient prévu le retour de Jésus en 1914. Et après cette date, ils ont dit qu'il est quand même venu, mais juste de manière invisible. Et c'est à ce moment-là qu'il avait établi son royaume. Plus d'avènement, plus de retour physique de Jésus. Mais Paul est clair comme de l'eau de roche que ce genre de choses, que ce genre d'enseignement est faux. Il s'agit d'un mensonge. Et très clairement, ces enseignements mensongers essayaient de se vêtir de l'autorité de l'apôtre lui-même. Une fausse lettre, une lettre qui prétendait venir de l'apôtre Paul. Mais Paul est clair, non, il n'a rien envoyé, il n'a pas dit quelque chose de la sorte. Il s'agit de fake news, de fausses informations. Satan a de fausses informations concernant la foi dans les médias. Mais ici, on découvre que ces fake news, ces fausses informations, trouvent leur origine dans l'Église. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'écrits qui prétendaient venir, qui étaient prétendument des apôtres, mais qui ne venaient pas d'eux. On peut penser, par exemple, aux écrits comme l'Évangile de Thomas, où il y a beaucoup d'écrits très tardifs qui venaient beaucoup plus tard, après la vie des apôtres, après le canon du Nouveau Testament. Et parfois dans les médias, sur la Une, du Point ou ailleurs, on voit quelque chose de sensationnel. Comme si les médias ont trouvé quelque chose, ont découvert le vrai. Il s'agit de fake news, de fausses informations. Au fil de l'histoire, il y a aussi eu des personnes qui se disaient prophètes, inspirées de Dieu, capables de recevoir des visions, des révélations de Dieu. Il y a eu toutes sortes de mouvements au fil des siècles. Il y a aussi ce genre de mouvement dans les milieux évangéliques. de nos jours. Il faut s'en méfier. Et comme on va voir dans le passage de la semaine prochaine, il faut qu'on soit de plus en plus attaché aux Écritures, ce que les apôtres ont vraiment dit. Très souvent dans ces mouvements, même aujourd'hui, on a des promesses de l'enseignement, des promesses concernant des choses que Jésus va quand même nous donner, mais pas aujourd'hui, mais à la fin de l'histoire, quand il revient. Une vie sans péché, par exemple, où le péché ne sera plus. Ou une vie de bénédiction matérielle, ou une vie sans souffrance, sans maladie. Et parce qu'on veut ce genre de choses, c'est naturel. Et parce qu'on sait que Dieu est capable de nous donner ce genre de choses, on cède à ce genre de mensonges, à ces fake news. Et parfois, la foi de certains est ébranlée quand on ne reçoit pas ces choses. Et Paul nous invite à ne pas être déstabilisés à ce genre de mensonges. Et comme on va voir la semaine prochaine, nous attacher seulement à ce que l'apôtre a vraiment dit, c'est-à-dire aux Écritures. Tout ça nous amène à notre deuxième point pour ce matin. Ne soyons pas séduits par ces mensonges non plus. Ne soyons pas séduits par le mensonge. Verset 3. Que personne ne vous trompe ou que personne ne vous séduise d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, apparaisse l'homme de péché ou l'homme impie, le fils de perdition. Que personne ne nous séduise, que personne ne nous trompe. Alors nous sommes ici dans ce que certains pensent être le passage le plus difficile du Nouveau Testament. Il s'agit d'un passage apocalyptique, c'est-à-dire un passage qui évoque ce qui va se passer à la fin de l'âge, à la fin du monde. Le vocabulaire de Paul est exactement comme le vocabulaire de Jésus dans Matthieu 26, dans Marc 13. Que personne ne vous séduise. Jésus l'a dit exactement de la même manière. Et ce qui est difficile pour nous, et c'est ce qu'on voit au verset 5, c'est que Paul a déjà donné cet enseignement, peut-être de manière plus exhaustive, lorsqu'il était à Thessalonique, de manière orale. Nous n'avons pas accès à ce qu'il a dit de manière orale. Et donc, on n'a pas toutes les informations. Nous avons ici une vue partielle. Mais bon, en même temps, il faut souligner que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Les Écritures sont toujours suffisantes pour nous donner tout ce dont nous avons besoin de savoir pour la vie chrétienne et pour être sauvés. Paul explique que Jésus n'est pas encore revenu parce que deux choses doivent se passer avant. Deux choses doivent arriver avant que Jésus ne revienne. Oui, il a dit dans sa première lettre, Jésus va revenir à l'improviste comme un voleur dans la nuit. Une manière inattendue pour ceux qui ne veillent pas. Mais quand même, il y a deux choses qui auront lieu avant son retour. Notamment, d'abord, une grande rébellion ou une grande apostasie. Et ensuite, la venue d'un homme qu'on appelle ici l'homme de péché ou l'homme impie, selon les versions. Celui qui est voué à la destruction, le fils de perdition, voué à la perdition. Donc, Paul évoque un moment où beaucoup vont se détourner de la vérité. Et c'est ça ce que veut dire l'apostasie, se détourner de l'évangile, de la vérité. Bon, il se réfère à ceux qui jusqu'à là croyaient, disaient qu'ils croyaient en Jésus. Mais face à la séduction, face au mensonge, se détournent de la vérité. Et on voit aussi que cette apostasie aura lieu quand un homme très particulier, sera révélé. C'est un terme révélé, c'est un terme très proche de celui utilisé au chapitre 1 pour la révélation de Christ, revient. Donc très clairement, il s'agit d'un faux Christ. Où l'apôtre Jean, dans sa première lettre, parle de l'Antichrist, un personnage énigmatique. Que fait ce personnage énigmatique? Littéralement, son nom, homme de péché, veut dire homme sans loi. Un homme qui s'oppose à la loi. Donc il est contre la parole de Dieu. Et le verset 4 ajoute, donc verset 4, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc il est l'adversaire de Dieu, il est contre Dieu, l'ennemi de Dieu. Il est orgueilleux, il s'exalte pour être le rival de Dieu. Il se met à sa place dans le temple. Il est contre Dieu, il est contre sa loi. Il exige l'adoration parce qu'il se proclame Dieu lui-même. On le voit assis dans le temple de Dieu. Ça, c'est aussi une référence énigmatique. Est-ce qu'il s'agit du temple à Jérusalem, par exemple, qui a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'agit plutôt de l'Église de Dieu qui est le nouveau temple de Dieu, habité par l'Esprit? L'Église est le temple de Christ. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus vaste, le monde tout entier, le temple de Dieu? Alors personnellement, je ne pense pas qu'il se réfère au temple physique à Jérusalem, mais entre l'Église et entre le monde d'une manière large, c'est difficile de trancher. Ce qui est toutefois clair, c'est que l'apôtre Paul ici puise dans les Écritures pour parler de cette manière-là. De manière large, les Écritures décrivent le diable comme l'adversaire de Dieu. C'est ce qu'on voit dès le chapitre 3 de la Genèse. Il est l'adversaire qui s'exalte, qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à sa parole. Ésaïe parle aussi du roi de Babylone de cette manière-là. Ézéchiel parle aussi du roi de Tyr de la même manière. Et d'une manière plus précise, Paul, l'apôtre Paul, suivant l'exemple de Jésus dans Matthieu 24, puise dans les images du prophète Daniel. Pour ceux qui étaient avec nous il y a 3 ans, on a étudié ce livre en détail. Et vers la fin de ce livre, on a une prophétie au chapitre 11 qui utilise ces mots-là. Et on pense que cette prophétie a été accomplie avant même la première venue de Jésus, par l'action d'un certain roi grec qui s'appelait Antiochus IV, dit Épiphane. On a vu ça il y a quelques années. En tout cas, Daniel a évoqué un jour à venir, un jour de grande détresse avec un roi arrogant. Je vais juste lire ces paroles au chapitre 11 de Daniel. « Les troupes se dresseront sur son ordre, l'ordre de ce roi. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles supprimeront le sacrifice constant et établiront l'horreur dévastatrice. Il fera apostasier par des paroles enjôleuses les profanateurs de l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu sera fort et agira. Et ceux qui parmi le peuple auront du discernement communiqueront l'intelligence à la multitude. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, des flammes, de la captivité et du pillage. » Et Jésus lui-même reprend ces paroles au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Et Jésus dit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice qui a été annoncée par l'entremise du prophète Daniel, installée dans un lieu sacré, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Je pense que quand Jésus disait ces choses, il pensait à ce qui allait se passer quand le temple allait être détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, dans notre passage de ce matin, nous montre que ce n'est pas fini de la prophétie de Daniel, que même ce que Jésus a dit est simplement un moment précurseur de la destruction ultime qui est toujours future. Et c'est souvent comme ça avec la prophétie biblique. On a des accomplissements partiels, un peu comme des montagnes. Quand on voit au loin, on voit des crêtes et parfois on voit juste une seule montagne, et quand on est beaucoup plus près, on voit qu'il y a eu plusieurs crêtes avant la grande montagne. Et c'est la même chose ici, je pense. On a vu plusieurs crêtes et ensuite il va y avoir un accomplissement final. Un temps quand beaucoup vont se détourner du Seigneur. Quand l'Église, peut-être c'est l'Église dans notre contexte, l'Église sera infiltrée par un imposteur. De qui est-ce qu'il s'agit? Au fil de l'histoire, on a beaucoup commenté ces versets pour dire « Ah oui, peut-être cet imposteur, cet homme est déjà là. » Certains se sont dit « Ah oui, c'est l'arrivée de l'islam. » Comme beaucoup ont été tentés et qui ont quitté le christianisme. Certains ont pensé que c'était l'Église catholique romaine, avec le pape et la papauté. Les réformateurs protestants pensaient de cette manière-là. Ils voyaient dans la papauté cette institution qui avait remplacé Christ en quelque sorte. Parce que le terme vicaire de Christ veut dire celui qui est à la place de Christ. Il faut aussi constater que cette apostasie et cet homme impie, cet homme de péché, en fait ces choses doivent être futures. Parce que ces choses arrivent à la fin de l'histoire. Verset 6 nous dit que quelque chose ou quelqu'un les retient pour l'instant, jusqu'au jour choisi par Dieu pour cet affrontement cosmique. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui les retient. Alors qu'est-ce qui les retient? Il y a eu des interprétations différentes aussi au fil de l'histoire de l'Église. Il se peut qu'il s'agisse d'un ange de Dieu, c'est quelque chose qu'on voit dans Daniel. D'autres pensent qu'il s'agit de gouvernements établis par Dieu, Romains 13, qui retiennent, dans un sens, qui empêchent l'anarchie, l'homme sans loi. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que derrière tout ça, il y a Dieu. C'est selon le timing de Dieu. Il sait ce qu'il fait. D'une manière ultime, c'est lui qui retient cette apostasie. C'est lui qui retient cet homme de péché. En attendant, comme le verset 7 nous dit, le mystère de l'impiété agit déjà. Et c'est vrai, tout au long de l'histoire, tout au long de l'histoire de l'Église, on voit des contrefaçons. On voit, dans un sens, des mini-hommes impies. Et sans doute, et peut-être je risque de choquer certains en le disant, je pense que dans un sens, l'islam, Mohammed, ils ont été une de ces contrefaçons, une contrefaçon séduisante pour beaucoup de gens. Et je pense que les réformateurs avaient raison de vouloir réformer l'Église catholique, enlever ces manières, ces contrefaçons, ces manières mensongères de vivre la foi chrétienne. Ils avaient raison de revenir à la Bible. Et je pense que les évangéliques avaient raison de revenir à l'autorité de la Bible. Après, beaucoup de protestants ont cédé face à la pression du siècle des Lumières. Et même aujourd'hui, ces mêmes évangéliques se laissent piéger parfois, éloignés de cette parole, par des faux enseignements, par des personnes qui ont d'autres évangiles, qui promettent par exemple la prospérité matérielle ici-bas en échange de nos dons financiers, qui promettent l'épanouissement personnel ici-bas. On parle parfois du faux évangile du bien-être, où tout est axé sur nous-mêmes, et parfois on peut aller dans certaines églises et on peut avoir l'impression que l'évangile est là simplement pour nous servir, et que même l'adoration, nos chants sont là juste pour que nous puissions avoir un moment de défoulement le dimanche matin. On n'est pas si éloigné des contrefaçons de l'évangile, ces contrefaçons séduisantes. Et qui sait si nos églises évangéliques résisteront à la tentation d'accepter les dogmes de la société occidentale concernant l'homosexualité, le mouvement transgenre, l'avortement, et ainsi de suite. Parce que ces vagues-là dans notre culture sont très puissantes, très séduisantes. Qui sait de quelle manière la prochaine génération, nos enfants, de quelle manière ils vont résister à ces vagues-là? Parce que c'est difficile de se faire passer pour des gros intolérants, des gens peu aimants, bornés. Ils sont vulnérables, je pense. Oui, il y a toujours eu des contrefaçons de la foi chrétienne. Il y a aujourd'hui des contrefaçons séduisantes. Et à l'avenir, il va y en avoir. Et ce passage nous dit que, selon Daniel, selon Jésus, selon Paul, il va y avoir une grosse contrefaçon vers la fin de l'histoire, menée par une personne derrière cette personne humaine. On voit bien que le diable est à l'œuvre par des signes trompeurs, mensongers. Verset 9 parle de son avènement, de sa manifestation. C'est le même mot que pour Jésus. Verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc sa séduction entraînera beaucoup dans l'apostasie. Le langage est très fort au verset 11. Dieu va les livrer à donner un esprit. Qu'est-ce qui est marqué en fait? Le verset 11. Dieu envoie une puissance d'égarement parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils ne sont pas attachés à la parole. Dieu, comme dans Romains 1, les livre à leur choix. Ailleurs, dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul a expliqué de cette manière. Il dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Comme Jésus dans Matthieu 24, Paul nous somme ce matin de ne pas être séduits par ce genre de mensonges. Mensonges qui dans la nature même sont séduisantes. Mais comme on va voir, ces mensonges sont bien creux. Il s'agit de contrefaçons. C'est ce qu'on voit dans le troisième volet. Je pense, Paul, nous sommes de fixer nos yeux sur Christ. Globalement, si Paul les exhorte ces Thessaloniciens, c'est parce que Paul veut tellement qu'ils résistent à ces mensonges. Il ne veut pas qu'ils succombent à ces mensonges. Mais comment est-ce qu'ils vont durer, perdurer, résister dans la durée? Ce qu'on voit déjà dans ce passage au verset 5, où Paul les rappelle ce qu'il a déjà dit, Et c'est ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine, dans le passage suivant. On doit rester attaché aux paroles des apôtres, c'est-à-dire les Écritures. Mais si nous restons fermement attachés aux Écritures, à l'enseignement des apôtres, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer nos yeux sur Christ, celui qui est au cœur de ces Écritures. Et en particulier, on va fixer nos yeux sur Christ qui revient en chair et en os. En Christ qui revient corporellement, comme il a promis. Et ce passage met des taches de couleur très vives sur le portrait de son avènement. Ce passage parle d'une victoire éclatante, décisive, si l'homme de péché, l'homme impie, et la grande apostasie arrive à la fin de l'histoire, c'est pour que la fin de l'histoire soit vraiment un crescendo qui exalte Dieu, qui exalte la gloire de Christ. Le récit de la Bible a commencé avec un serpent impie, une apostasie catastrophique, Adam et Ève dans le jardin. Et ensuite, Dieu a promis à Adam et Ève un jour, quand un fils d'Ève allait triompher du serpent au prix de sa vie. C'était une promesse qui prévoyait déjà la victoire de Christ sur la croix. Et à la fin de l'histoire, on voit que cette victoire déjà remportée à la croix par Christ sera manifestée, sera rendue claire et visible pour tous. Les choses vont être très claires. Verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Le souffle de sa bouche, c'est la parole. La vérité triomphera du mensonge. Ce mensonge proféré dans le jardin d'Éden. Ce mensonge qui s'est attaqué à la personne de Dieu, à sa bienveillance, à sa générosité. Qui s'est attaqué à sa parole. Et quand Christ revient, tout rentrera dans l'ordre. Ça sera très clair. Il faut que ça soit clair. Il y va de sa victoire, de sa gloire à la fin de l'histoire. Et à ce moment-là, les mensonges, les contrefaçons seront débusqués. On verra que tout ça a été complètement creux, complètement vide, des coquilles vides. Et Dieu seul sera exalté. Christ sera exalté. Et nous qui croyons, qui persévérons, nous serons rassemblés avec Christ, pour être avec lui. Et en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? Fixer nos yeux sur Christ, celui qui est l'image parfaite du Père. On dit que si on veut débusquer un faux billet par exemple, il faut étudier de près les billets authentiques. Qu'est-ce qui va nous protéger du faux, de l'usurpateur, aujourd'hui, demain, à la fin de l'histoire? Il faut qu'on fixe nos yeux sur l'authentique, sur Christ lui-même, le vrai Christ, celui qui, comme on a vu la semaine dernière, revient dans une flamme de feu. Celui qui est le juge de tous, et qui par la croix est aussi notre sauveur. Ne soyons donc pas séduits par d'autres paroles, par d'autres évangiles, par d'autres philosophies qui prétendent nous donner le vrai Christ, des faux Christ. On nous dit que c'est un combat. Le tentateur est un séducteur. Comme au jardin d'Éden, il s'attaque à nos cœurs, parce qu'il sait que nos cœurs sont faibles. Il sait que nos cœurs préfèrent notre parole à la place de la parole de Dieu. Que nos cœurs veulent un Christ à notre image. Un Christ qui nous plaît, qui nous permet de faire ce qu'on veut faire, ce que les désirs de nos cœurs veulent faire, plutôt que le vrai Christ, le juge. Demandons donc à Dieu de purifier nos cœurs, de nous donner un amour ardent pour le vrai Christ, pour sa parole. Et comme Daniel a dit il y a des siècles, le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, sera fort et agira. Ceux qui parmi le peuple auront du discernement communiqueront l'intelligence à la multitude. On a besoin de connaître le vrai Jésus, de connaître notre Dieu pour rester fort, pour agir. Donc on va demander à Dieu de nous aider à faire justement ça. Prions. Notre bon Père Céleste, comme les Thessaloniciens, nous ne sommes pas forts en nous-mêmes. Nous voulons reconnaître que nos cœurs sont bien faibles, en proie au mensonge. Père, nous sommes... C'est tellement facile de nous séduire. Nos cœurs se languissent après le confort, après l'épanouissement personnel, après l'argent, après le bien-être. On veut ces choses que Jésus à nous donner, on veut les maintenant. Et Père, nous allons te demander de nous aider à fixer nos yeux sur Jésus, à nous fixer sur celui qui est le vrai Christ, le Christ tout-puissant, le juge de tous, celui qui est pur, qui est saint, celui qui a souffert avant de connaître la gloire. Aide-nous dans les difficultés de la vie, dans les souffrances, quand c'est difficile de témoigner. Donne-nous de fixer nos yeux sur Christ et donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Donne-nous de voir ce qui est faux, nous attacher à ce qui est vrai, Christ. Nous te demandons ces choses en son nom. Amen.